Temps de prière, je vous invite à ouvrir votre Bible en Ésaïe chapitre 36. Alors, on va voir l'histoire, enfin pas toute l'histoire, une partie, tranche de vie, on pourrait dire, d'un roi qui s'appelait Ézéchias. Donc, il est question de lui. Il prie plusieurs fois. Hein, quand on regarde l'histoire d'Ézéchias, c'est un homme. Je pourrais dire, c'est un homme de prière. Qui a confiance, qui avait confiance en Dieu. Et on va regarder dans Ésaïe 36. Ésaïe 36, c'est 2 Rois, chapitre 18. L'histoire est racontée presque mot pour mot. Et on trouve quelque chose de plus résumé, de plus ramassé en 2 Chroniques, chapitre 32. Mais voilà, il nous est 2 Chroniques 32, il n'est pas donné le détail de la prière. On sait qu'Ézéchias a prié, mais sans avoir forcément les détails. En Ésaïe et puis en 2 Rois, on a un petit peu plus de détails. Donc, Ésaïe 36, donc Ézéchias est décrit comme un bon roi. Hein, si vous lisez 2 Rois 18, 1 à 6, la Bible raconte que dans le royaume de Juda, il y avait plusieurs rois. Certains étaient bons, d'autres étaient mauvais. Et puis, le royaume du Nord, bien, il n'y avait que des rois mauvais. Hein, il n'y avait pas eu de bons. Ézéchias était entre deux, entre Akaz et puis Manassé, et lui, qui n'étaient pas de bons rois. Et Ézéchias, lui, la Bible décrit comme un roi bon. 2 Rois 18 parle des réformes qu'il a fait, le fait qu'il était attaché à l'Éternel. Donc c'est un roi qui s'est révolté contre le roi d'Assyrie, qui voulait envahir, et il avait semble-t-il, donc, dans sa révolte, fait appel probablement à l'Égypte, hein, pour avoir de l'aide. Alors, le roi d'Assyrie tente d'attaquer Jérusalem, donc le royaume de Juda, hein, et il envoie pour cela un homme extrêmement habile qui s'appelle Rabshaké. Hein, vous rappelez, c'est le chef militaire qui arrive avec une grande armée, la Bible dit une armée puissante. Et puis qui va à travailler pour mener son action militaire. Donc on va regarder les circonstances un petit peu de cela. Donc dans cette situation, avec tout ce qui se passe, à un moment donné, il arrive que Ézéchias vienne à Dieu et puis qu'il prie. Mais avant de regarder la prière d'Ézéchias, on voudrait regarder un peu les circonstances de sa prière et surtout le but que s'était fixé cet homme qui s'appelait Rabshaké. Donc, Ésaïe, chapitre 36. Et puis, nous allons lire les premiers versets d'Ésaïe, chapitre 36. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Alors, je vais lire, et ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de trouver quel est le but que poursuit Rabshaké dans d'accord. Essayez de, quand vous lisez, peut-être vous pouvez souligner des choses importantes, mais on va essayer de résumer en une phrase qu'il est en train de faire. Verset 2, le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshaké, avec une puissante armée. Rabshaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors, Eliakim, fils d'Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshaké leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est donc cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre la prudence et la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu l'as pris pour soutien, ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est le pharaon, le roi d'Égypte, pour ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda, à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel? Maintenant, fais une convention avec moi, avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joash dirent à Rabshaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshaké répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? Puis Rabshaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun de son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ce pays, quels sont ceux qui ont délivré leur main et de ma main? Pardon, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez pu résumer, on pourrait dire plus, ce que fait ici Rabshaké, mais qu'est-ce que vous pensez? Comment vous auriez résumé ce qu'il est en train de faire, le but qu'il recherche ici? Oui, de l'intimidation, oui, on pourrait dire ça. Je n'ai pas entendu. Détourner le peuple, oui, d'accord, détourner le peuple de Dieu. Du doute, oui. Il y a un mot qui revient plusieurs fois, je ne sais pas si vous avez fait attention. Verset 4, par exemple. Quelle est cette confiance que tu as, hein? Verset 5, tu as placé ta confiance. Il parle ici, voilà, en qui donc as-tu placé ta confiance pour être révolté contre moi? Verset 7, il dit, c'est en l'Éternel, ne dites pas... que c'est l'Éternel que nous nous confions ici. Verset 9, il dit, tu mets ta confiance dans l'Égypte. Puis, parfois, c'est juste suggéré. Verset 14, il dit, qu'Ézéchias ne vous abuse point, etc. Et ne vous amène point à vous confier, verset 15, qu'il ne vous amène point à vous confier, encore on a le mot, en l'Éternel. N'écoute, verset 16, n'écoutez point Ézéchias, et puis... je pense qu'il y avait un autre que je n'ai pas retrouvé. Bon. En tout cas, verset 18, qu'Ézéchias ne vous séduise point en vous disant l'Éternel nous délivrera. Donc, il parle ici de la confiance. On pourrait dire qu'il cherche à miner la confiance du peuple, mais la confiance en qui? En Dieu et aussi en Ézéchias. Hein, parce qu'il dit, hein, donc on voit qu'il cherche à miner la confiance dans les deux. Et comme on dit, là, il essaie de ramener le moral à zéro. Et on peut penser que c'est ainsi que Satan agit souvent. Dans le jardin d'Éden, c'était la même chose. Il a cherché à détruire la confiance qu'il pouvait avoir dans les paroles de Dieu. Donc son but, c'est vraiment de faire chuter la confiance dans les paroles de Dieu, et puis aussi dans ceux que Dieu avait placés comme responsables auprès du peuple. Mais quelle est la stratégie? Deuxième question que je vous pose, quelle est la stratégie de Rabshaké? Comment est-ce qu'il s'y prend pour faire chuter cette confiance, pour détruire cette confiance, pour miner la confiance du peuple. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Si vous regardez le verset 6, il parle de l'Égypte. Il dit quoi? Il dit, vois, tu as placé ta confiance dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Hein. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. D'accord? Après, au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par exemple, d'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? Est-ce que c'est vrai qu'il est monté par la volonté de Dieu pour détruire le pays? Oui ou non? On n'est plus mitigé là. Hein? Oui, c'est par la volonté de Dieu qu'il est monté pour détruire le pays. On pourrait dire ça ensuite. Et puis après, au verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, où sont les dieux de Hamath, etc., d'Apad? Où sont les dieux de Sepharvaim? Il dit, ont-ils délivré Samarie de ma main? Est-ce que c'est vrai que Samarie n'a pas été délivrée de sa main et que aucun des dieux des autres pays qu'ils avaient attaqués n'ont pu faire des choses pour leur pays? Oui, c'est vrai. Donc il dit la vérité. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette vérité? Il la manipule. Donc, une technique qu'il utilise ici, c'est de manipuler la vérité. Utiliser des faits véridiques, mais en les manipulant et en leur faisant porter une conséquence qui n'est pas en orientant, si vous voulez, les conséquences de ces vérités-là vers des choses qui sont fausses. Hein? Alors, si on prend, par exemple, le fait qu'ils disent que Dieu, c'est par la volonté de Dieu qu'il est là, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il sous-entend ici? Qu'il est le serviteur de Dieu, hein, et que on pourrait presque penser que voilà, il a une communion avec ce Dieu qu'il utilise, et puis et donc le peuple devait se soumettre à lui parce que lui il est le serviteur de Dieu. Mais Ésaïe, si vous lisez Ésaïe 10 5 par exemple, Ésaïe 10 verset 5, hein, Ésaïe chapitre 10 et au verset 5, on lit: malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Voilà comment Dieu parle d'eux. Lui, il parle de Dieu en disant « Je suis le serviteur de Dieu, c'est par la volonté de Dieu que je viens là. » Mais verset 5 d'Ésaïe 10 dit « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans ma main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre les nations impies, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin. » Certes, Dieu l'utilise, mais l'utilise comme un instrument, comme il peut utiliser toute chose. Oui, Dieu, c'est par la volonté de Dieu qu'il est là, mais pas pour avec la manière avec laquelle il pense aux choses. Regardez verset 7, verset 6 encore de Ésaïe 10. Dieu dit, je l'ai lâché contre nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Et puis verset 7, mais il n'en juge pas ainsi. Dans sa tête, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, ça se passe autrement. Il dit, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Bien sûr, il est utilisé par Dieu, mais c'est la volonté de Dieu de l'utiliser. Dieu l'utilise d'une certaine manière, mais lui, dans la tête, il pense autre chose, hein. Il pense, hein, et il utilise ce qu'il pense dans sa tête pour pouvoir décourager le peuple. Et puis, si on regarde l'échec des divinités païennes, oui, c'est vrai que les autres dieux des rois des autres pays n'ont pas su délivrer ces peuples. Mais qu'est-ce que cela prouve? Qu'est-ce qu'il cherche à prouver par là, hein? Il dit, si c'est comme ça avec les autres dieux de ces peuples-là, il en sera de même pour l'Éternel. Hein? Il dit, ces peuples se sont confiés dans leur dieu et il n'a pu rien faire pour eux. Pourquoi croyez-vous que l'Éternel vous délivrera? Et si vous lisez, je crois, Deutéronome 32, il dit, Dieu ne vous délivrera pas, hein, de ma main. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il rabaisse l'Éternel, Dieu, au même niveau que les divinités païennes. Donc, il utilise quelque chose qui est vrai, c'est vrai qu'ils n'ont pas été délivrés, mais pour quelles conséquences? Pour dire que votre Dieu, il est comme les autres dieux, il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Donc, manipulation, on pourrait dire, de la vérité. Parfois, il utilise le mensonge pur, hein. Verset 16-17, si vous regardez, il parle de Il dit, n'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi et vous allez manger des vignes de votre vigne, des figuiers, chacun boira l'eau de sa citerne. Et même lorsque je vous emmènerai là-bas, eh bien, vous allez être dans un pays qui est comme le vôtre, un pays de blé, de vin, un pays de pain et de vignes. Hein. Il est en train de vanter, on pourrait dire, hein, les joies de la déportation. Hein. C'est comme ceux qui parlent parfois, ça avait fait un tollé en France, les bienfaits de la colonisation. Hein. Et ça n'a pas plu à ceux qui étaient colonisés, bien sûr, hein, d'entendre des choses comme ça. Les bienfaits de l'esclavage, c'est comme s'ils disaient ça, hein, ici. Non, pas du tout. Ça, c'est du pur mensonge. Parfois, il se moque, hein, verset 8, on l'a vu, hein, il dit, je peux vous fournir 2000 chevaux si vous avez des cavaliers pour les monter. Il n'en avait pas pour les monter. Et puis, on peut voir, parfois même, il utilise le blasphème, parce que lorsque Dieu répondra plus tard, hein, il dira que c'est vraiment du blasphème contre la manière avec laquelle il a parlé. Donc voilà, ce sont là ici la manière d'agir, on pourrait dire, de Rabshaké. Mais surtout, une grande chose qu'il fait, c'est de prendre la vérité, les choses, les faits. Et ça, c'est une arme qui est redoutable, et de tourner la vérité de manière à faire croire quelque chose qui n'est pas juste. Et le mensonge est efficace, surtout quand il se base, on pourrait dire, quelque part, sur des faits véridiques. Mais quelle est la réponse d'Ézéchias ? Ésaïe 37, alors regarde Ésaïe 37 maintenant. La réponse d'Ézéchias, eh bien, c'est la prière. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent ici, mais on va lire à partir de Ézéchias, verset 14. Hein, si vous regardez un petit peu avant, il s'est passé des choses. Ézéchias va prier, chapitre 37, verset 1 jusqu'au verset 4. Il va même envoyer des personnes pour demander au prophète Ésaïe de prier. Verset 4, il dit, il envoie des serviteurs, ils arrivent auprès d'Ésaïe et ils disent, peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter Dieu, le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Donc Ézéchias va prier, mais il invite aussi les autres à prier avec lui. Il envoie même des messagers auprès du prophète pour qu'ils puissent prier. Entre-temps, il se passe encore des choses et une lettre parvient, à Ézéchias, verset 10, il est dit, vous parlez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant Jérusalem sera délivrée. Cette fois-ci, il dit que ton Dieu ne t'abuse point, vous voyez comment il parle, hein, des mains du roi d'Assyrie, voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, comment ils ont détruit, et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites ont-elles délivré Gozam, Shoram, Retsef et les fils d'Éden sont-ils, et les fils d'Éden qui sont à Thalessar? Où sont les rois de Hamat, les rois d'Arpad, les rois de la ville de Sepharim, Vana et Divra? Et puis, verset 14, c'est ce que je voulais lire surtout, verset 14, il dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Verset 16, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre territoire, et qu'ils ont jeté leur dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, et du bois, de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Voilà la prière d'Ézéchias, hein, qui est vraiment extraordinaire. Donc, comment il commence cette prière? Eh bien, par la louange, hein, on le voit ici, très clairement. Et qu'est-ce qu'il dit? Il parle de l'unicité de Dieu, de sa puissance, de sa souveraineté sur tous les peuples. Ici, il dit, toi seul, tu es Dieu, tu es le seul Dieu, pardon, de tous les royaumes de la terre. Il dit, il n'est pas juste le Dieu du peuple de Juda, il est le Dieu de toutes les nations de tous les royaumes de la terre. Il domine sur toutes choses et c'est lui qui est tout puissant, qui a tout fait, qui a tout créé. Et puis, il invite Dieu à se pencher, à écouter, à regarder. Mais regardons ce qu'il demande à Dieu de regarder et de considérer. Il dit quoi ici? Il dit, entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il dit même pas pour nous effrayer, c'est-à-dire c'est pas eux-mêmes qu'ils placent en premier, même dans cette requête qu'il fait, c'est l'honneur de Dieu. Il prie, il loue Dieu, mais quand il arrive à la formulation de sa requête, il est soucieux de l'honneur de Dieu. Il dit, ils ont dit ces choses contre nous, mais pour t'insulter. Et donc, c'est comme s'il disait, il disait à Dieu, ne reste pas indifférent aux insultes qu'on profère contre toi qui es le Dieu vivant et vrai. Donc, il sollicite que Dieu réagisse, mais pas pour dire, wow, comment on est, si tu fais rien, on va périr, on est massacré, etc., etc., ce qui est vrai, mais il sollicite Dieu sur la base de sa grandeur, de son honneur même, qui est en jeu ici. Et puis, Ézéchias donc reconnaît bien sûr que Rabshaké a dit vrai. Il dit, il est vrai que l'Éternel, que les rois n'ont pas été délivrés de la main du roi d'Assyrie ici, mais il ajoute que c'était parce que ces divinités sont des divinités de néant et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ont disparu. Mais toi, tu es le Dieu vivant. Et ton peuple ne peut pas disparaître. Cet homme ne peut rien faire contre toi. Et puis, verset 20, il dit, « Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. » Là, il arrive à ce qu'il va demander pour eux-mêmes aussi, « Délivre-nous. » Mais le but qu'il veut à cela, c'est que les peuples de la terre reconnaissent la grandeur de Dieu. Et on voit un homme qui prie, mais qui est du début à la fin, sa pensée est focalisée sur Dieu. Il loue Dieu pour qui il est. Il demande à Dieu d'écouter parce que son honneur est en jeu. Et il demande à Dieu de le délivrer pour que, par cette délivrance, la gloire lui soit rendue et que les peuples puissent voir qu'il est véritablement Dieu. Et c'est une manière, je pense, qui est encourageante pour nous ici, hein. Nous prions, nous pouvons être focalisés sur nous. Il ne dit pas « délivre-nous, point ». Il aurait pu prier comme cela. « Délivre-nous, Seigneur, de cela ». Mais il dit « délivre-nous d'une manière que les peuples puissent voir que tu es, toi, le Dieu, le seul vrai Dieu. » On peut prier comme cela aussi quand nous demandons à Dieu quelque chose. Agis d'une manière telle que dans cette réponse que tu vas nous donner, les hommes puissent voir que c'est toi qui as agi. Et ça, je crois que c'est une bonne manière pour nous aussi, un bon exemple pour nous quand nous prions. Mais avant que nous ne prions, regardons la réponse que Dieu donne à cette prière. Elle est longue, mais on ne va pas tout lire, mais quand même considérer quelques aspects. Ici, à verset 21. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias. Alors, si vous lisez dans 2 Chroniques 32, vous allez voir que c'est Ésaïe et Ézéchias. La Bible dit, Ésaïe et Ézéchias prièrent à ce sujet et ils ont crié à Dieu. Ils sont ensemble en train de prier pour cette situation. Alors Ésaïe dit, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qu'as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté les yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, avec la multitude de mes charges, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Verset 26, « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises les villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés, confus. Ils sont comme l'herbe des champs, de la tendre verdure, comme le gazon des troies et le blé qui sèche avant la formation de tiges. » On pourrait dire donc dans toute cette partie, jusqu'au verset peut-être 29, pas aller jusqu'au bout, que Dieu parle à qui ici? De qui? Ou il parle de qui? De Sanchérib et des Assyriens. Mais il parle à qui? Il parle par le prophète Ésaïe à Ézéchias, on pourrait dire. Et donc, le premier qui est au courant de ce que Dieu dit, c'est Ézéchias. Et qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchias? Il lui dit, Sanchérib n'est qu'un pion entre mes mains. C'est ce qu'il dit. Et Dieu lui fait voir cela. Il dit, n'as-tu pas, parce que je pense, au début, Sanchérib, il n'entend pas ces paroles. C'est Ésaïe qui envoie dire ça à Ézéchias. Et il dit, n'as-tu pas appris? Et Dieu, dans sa réponse, dans la réponse qu'il donne à Ézéchias, il lui dit, je suis le Dieu souverain. Toutes ces choses arrivent parce que je les ai planifiées, je les ai déterminées d'avance. Et puis, au verset 30, au verset 30, Dieu donne quelques signes à Ézéchias. Et au verset 33, Dieu va dire à Ézéchias qu'il va délivrer Jérusalem des Assyriens. Il dit, verset 33, il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point ses traits, il ne présentera point de bouclier, il n'élèvera point de retranchement contre elle, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Donc Dieu répond à la prière d'Ézéchias. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est le verset 35, il dit, « Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ézéchias prie, Dieu dit qu'il entend la prière d'Ézéchias. Ézéchias certainement a prié avec beaucoup d'instance, il a mobilisé du monde pour prier avec lui. Et puis Dieu dit, tout cela je l'ai fait d'avance, il dit je vais vous sauver. Mais il dit qu'il va les sauver à cause, non pas de sa prière, mais à cause de quelqu'un d'autre. À cause de son nom qui les honorait, mais aussi il dit à cause de David, mon serviteur. Et on peut penser, ça me fait penser un petit peu lorsque Dieu dit, c'est en Genèse, il dit que l'Éternel est venu en aide à Lot à cause d'Abraham. Et il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où on voit que Dieu agit, non pas à cause des personnes même envers lesquelles ils agissent, non pas simplement à cause de ce qu'elles ont demandé. Certes, Dieu a pris en considération la prière d'Ézéchias, mais il répond et il dit que c'est par grâce que je réponds. Et c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Chaque pardon prononcé, on a dit comme ça, hein, chaque chose que Dieu nous donne, c'est par grâce qu'il le donne. Il dit, oui, je vais vous délivrer. Mais ce n'est pas à cause de la qualité de la prière d'Ézéchias. C'est vraiment, il dit, à cause de son nom et à cause de David. Et aujourd'hui encore, c'est à cause du fils de David, c'est-à-dire de Jésus-Christ, que Dieu répond à notre prière. Quand nous nous approchons de Dieu, ce n'est pas en vertu de ce que nous sommes, nous n'avons pas de réponse parce que nous exprimons bien, parce que nous demandons avec une bonne argumentation, même s'il faut prier avec instance, Dieu répond en vertu de ce qu'il est et de ce qu'il a fait à la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains quand il dit « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui ?» C'est en Jésus-Christ que Dieu nous répond. Dieu répond par grâce. Il n'est pas obligé de répondre. Ici, il répond à Ézéchias en lui disant « Toutes ces choses, il les a programmées d'avance. » Et il dit « J'ai entendu ta prière. » Donc, il ne la rejette pas. Il a prévu que cette prière, probablement, ait lieu aussi. Mais il ajoute vraiment que c'est en fonction de lui-même, en vertu de lui-même, qu'il agit. Et je pense que c'est pour cela que Ézéchias, quand il prie aussi, sa prière est vraiment centrée sur Dieu. On sent qu'il il demande la délivrance, mais il veut que ce soit Dieu qui soit honoré. Il loue Dieu, il demande à Dieu de regarder les circonstances, mais il parle de l'honneur du nom de Dieu. Et Jésus, dans sa prière, dans le modèle de prière qu'il nous donne aussi, en Matthieu, il demande de prier de cette manière-là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Ça commence comme ça, c'est-à-dire que toute la prière, même les requêtes qui sont après, et d'ailleurs la fin ramène tout cela, montre que la prière doit être vraiment centrée sur Dieu lui-même. Je pense que c'est important pour nous de considérer ces choses. Hein. Le but de l'ennemi, avant que nous ne prions, est toujours de nous faire perdre confiance en Dieu. Et quand on perd confiance en Dieu, on ne prie pas. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je parle avec Kétia aujourd'hui dans la voiture. Elle passe un examen d'anglais. Et puis, pour son bac aujourd'hui, et j'ai dit, mais on peut prier Dieu. Tu sais que Dieu peut intervenir dans toutes ces choses. Hein. Rien ne lui est impossible. On a cette tentation de nous confier dans la qualité du travail que nous avons fait. J'ai révisé, j'ai appris. C'est important de travailler, c'est important de réviser, c'est important de passer du temps à apprendre. Mais ce n'est pas là qu'on doit mettre notre confiance. On doit mettre la confiance dans Dieu qui donne la capacité même de se souvenir de ce qu'on a fait. Qui nous donne la santé le jour où on passe l'examen? Il y a des gens qui ont raté, ils avaient tout dans la tête, mais le corps était malade. Ils n'ont pas pu passer l'examen. Et souvent, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir là et nous faire perdre confiance en Dieu. Je n'ai pas le temps d'aller à l'étude biblique parce que j'ai du travail à faire. J'ai tellement de travail que, voilà. Et si je ne travaille pas, quelqu'un m'a dit une fois, je panique quand je pense que je vais au culte et puis les autres qui passent le même examen que moi sont en train de bosser à ce moment même. Et donc, eux, ils progressent. Et dit, Dieu peut faire pour toi, dans ton sommeil, plus que ce qu'ils font dans leur travail. C'est ce qu'il dit, hein, la Bible dit. Ça, c'est important d'avoir cette confiance en Dieu. Juste, je vous lis ce que Ézéchias dit, parce que j'ai trouvé ça très beau en 2 Chroniques 32. Ne cherchez pas, je vous dis. Il dit, il encourage le peuple et il dit, j'ai pas coloré dans mon... Bon, je n'ai pas noté le verset, je vais garder ici un petit instant. Parce que c'est encourageant de voir comment il dit la chose. Voilà, c'est au verset 7 et 8. Voilà, merci. Il dit, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. C'est merveilleux ça, n'est-ce pas, hein? Il dit, eux, ils ont un bras de chair avec eux. Nous, nous avons Dieu avec nous. Et il peut tout faire. Il peut tout faire. Et il y a pas très longtemps, il y a une jeune fille qui est venue avec sa maman chez nous pour manger. Et puis, elle voulait pas venir au début parce qu'elle avait plein de travail le dimanche. Et dans la voiture, on y allait. Et on lui a dit, mais tu sais que Dieu peut faire que ce que tu as révisé, c'est sur ça que tu tombes peut-être. Ou je sais pas, il peut faire autre chose aussi. Et puis, bon, elle est quand même venue, et puis, rentrée, travailler. Et dans la semaine d'après, on lui a demandé, alors, comment ça s'est passé ton examen? Elle dit, ah ben, le prof a repoussé l'examen. J'ai dit, tu vois, qui c'est qui a fait ça? C'est Dieu, il a permis que tu aies plus de temps pour pouvoir travailler. Et des fois, on est comme ça, on a peur. Dieu peut faire ces choses, hein. Il est puissant. Et on doit, il est tellement puissant qu'il peut être puissant dans les petits détails de notre vie aussi. Et il n'est pas que le Dieu des montagnes, il est aussi le Dieu des plaines. Voilà, que cela nous encourage. Bon, j'ai pris beaucoup de temps, mais que le Seigneur nous aide à considérer l'exemple d'Ézéchias lorsque nous prions. Ses circonstances et aussi comment il agit en fonction de ses circonstances. Quelques sujets de prière. Peut-être vous avez des sujets, oui, Jeanne? D'autres sujets, c'est pour Christelle et puis pour les voisines de Jeanne. Je crois que oui. Prions pour Rebecca, hein? Oui, si. D'accord. Joyeux anniversaire. Très bien, on va prier pour Christelle. Son salut, surtout. Hein? Ça, c'est la chose la plus importante que... pour les êtres humains. Priez pour Kaina par demain, je crois aussi. Hein. Voilà, donc voir les parents et puis donc, prier pour sa protection aussi. Et puis elle veut amener des choses là-bas, donc c'est jamais très facile. Donc priez pour Kaina. Thierry et Marion. D'accord. Prions aussi pour que les travaux avancent aussi là-bas à la salle à Sarcelles, hein, parce que Timothée appelle presque tous les jours, je crois. Hein. Les verres ont été changés. Il n'y a plus le bout de bois, là. Ah, d'accord. Ça y était dimanche, le bout de bois, non? Oui, d'accord. Ouais. Ouais. Très bien. Donc, ça a avancé. Il y a d'autres travaux à faire. Donc, prions que le Seigneur touche le cœur de ceux qui doivent travailler aussi, hein, qu'ils travaillent. On a eu une bonne rencontre aussi, on peut remercier le Seigneur pour cela, avec le concert. C'était une bénédiction, je crois, d'avoir ce groupe qui est venu. Et plusieurs visiteurs. Ah, très bien. En priant pour la suite, ces choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, Géraldine, j'oublie son nom de famille, mais... Palmont, ça s'appelle Palmont aussi, ouais, c'est oui. Donc Géraldine Palmont, prions pour elle. Hein. Donc son mari est retourné encore à l'hôpital, je crois. Mais bon, ils sont dans une situation, voilà, c'est pas très évident pour elle de savoir quelle décision prendre par rapport à lui. Donc priez pour elle. Hein. Laurent, pour la sagesse dans ce qu'il doit faire, discernement. Voilà, très bien. Très bien. Dieu dit qu'il donne à ceux qui demandent, hein, donc on peut demander. Merci. On va demander avec toi. Très bien, on peut prier. Oui, Jacqueline, voilà. Oui. Oui. Grâce à Dieu. Très bien. On remercie Seigneur pour l'intervention qui s'est bien passée. Mais... Et on prie pour la suite parce que il y a encore du traitement à faire. Oui. Très bien. Pour Renate aussi. Très bien. On va prier. Hein, si, alors, Charlie est au Japon. Hein, donc, il est parti, je pense, hier ou aujourd'hui. Hier, je ne sais plus. Hier. Parti hier, voilà. Et puis, Lucie, elle est en Martinique. Elle rentre, je ne sais pas quand, mais elle m'a envoyé des salutations. J'ai oublié de dire dimanche, elle a envoyé des salutations aussi pour l'église. Voilà. Très bien. Oui. On va prier. Hein. On n'aura peut-être pas le temps de se séparer trop. Hein. On est tellement... on n'est pas très en avance. Donc, on peut rester comme cela. Hein. Peut-être on peut prier. Donc, mais prier, osez prendre la parole pour prier. Et pensez aux autres quand vous prenez la parole aussi. Peut-être il faut... Vous pouvez prier plusieurs fois s'il le faut, mais au moins donner l'occasion aux autres aussi d'exprimer quelques mots au Seigneur, hein, des remerciements. Venez avec votre lettre comme Ézéchias, hein, avec vos fardeaux et répandez-le devant l'Éternel. Prions.